Bonsoir, avec les confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir la Commission électorale nationale indépendante a prolongé jusqu'au 30 mai prochain l'opération des dépôts des candidatures à l'élection des députés provinciaux. Dans notre deuxième thème de ce soir, il sera question de la déclaration des évêques du Maniema Nord et Sud-Kivu qui dénoncent le silence des autorités de la RDC et de la communauté internationale face à la montée de l'insécurité dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui est militaire à Kinshasa. Bonsoir Élisée.
Bonsoir.
Alain Botoko, journaliste photo reporter indépendant. Bonsoir Alain.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Kapi.
Merci. Et Romain Kambala, directeur de la radio-télévision Kasaï Horizon à Tshikapa, au Kasaï Occidental. Bonsoir Romain.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de Radio Kapi.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Et comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux chinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Alain Rung.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par la prolongation du début de candidature pour les provinciales annoncées par la CENI. Dépôt des candidatures jusqu'au 30 mai, c'est ce qu'annonce Forum des As en manchette. À la base de cette prolongation, explique le confrère, le nombre très réduit des dossiers réceptionnés, à savoir 2000 sur les 8000 attendus. La CENI a prolongé de 5 jours, rapporte le tabloïd, le délai de réception de candidatures pour les élections des députés provinciaux. La décision a été prise par le bureau de la CENI et communiqué au public par le rapporteur Jean-Pierre Kalamba. C'est ce que corrobore la prospérité en signant « Élection provinciale, l'ultime prolongation jusqu'au 30 mai 2015 ». Ce sur quoi embraye le quotidien du groupe L'Avenir sous un titre quasi similaire « Dépôt des candidatures, la CENI prolonge jusqu'au 30 mai ». D'après le journal, la difficulté a été observée à l'œil nu dans un débat sans embâge entre l'opposition et la majorité présidentielle d'un côté et la CENI de l'autre qui a cerné le problème et a été obligé de prolonger la clôture de dépôt des candidatures pour les provinciales et locales au 30 mai 2015, conclut le confrère. Et à en croire le tabloïd, le phare, l'abbé Malumalu surgit du néant pour calmer le jeu. Sous un autre chapitre, Forum des As renseigne à propos de la recrudescence de l'insécurité dans l'est de la RDC, Muyaya Muhindo invite Obama à désigner un nouvel envoyé spécial dans les Grands Lacs. Dans une lettre ouverte adressée au président américain, signale le journal, 10 députés nationaux congolais le demandent dans le meilleur délai pour la région des Grands Lacs. Cette désignation, précise-t-il, sera une preuve renouvelée du président Obama pour parfaire le processus de paix et consolider la démocratie dans la région. Information qui n'a pas échappé au quotidien Le Phare. Aussi la prospérité signe-t-elle, Barack Obama mise en alerte Nord Kivu, un groupe de députés nationaux en colère. Par ailleurs, Forum des As rapporte au sujet des tueries de Beni que les évêques dénoncent le silence des autorités de la RDC et de la communauté internationale. Le tabloïd de la prospérité rapporte que les évêques du Kivu condamnent l'inertie du gouvernement. Aussi la référence plus signe-t-elle, évêques et élus de l'Est montent au créneau. Et pour le quotidien Le Phare, au Kivu, les évêques sont en colère. Sous un autre chapitre, la prospérité annonce à la une un coup de balai chez Kabila. Béa s'en va, Mouilanya arrive. Célestine Hortense Mukalai Kyoundé devient directeur de cabinet adjoint, chargé des questions économiques et de la reconstruction.
Merci Alain Rung pour cette revue des frères. Autre sujet qui ont fait l'actualité cette semaine, c'est entre autres le prix Christophe Mérieux 2015, décerné mardi 26 mai en France au professeur Jean-Jacques Mouyembe de l'Institut national des recherches biomédicales. Il a reçu sa récompense qui représente 500 000 euros pour encourager ses travaux de recherche sur la maladie infectieuse d'Ebola dans le bassin du Congo. Un prix mérité, Alain Botoko. pour le professeur Muyembe?
Oui, Muyembe mérite ce prix-là parce que c'est un effort personnel. Il n'est pas soutenu assez par les gouvernements, mais par les partenaires extérieurs. Et je crois qu'avec cet argent, 500 000 euros, ça peut l'aider à travailler encore mieux et à équiper les laboratoires de l'INRB, hein, qui souffrent énormément de manque d'équipement. Et moi, j'ai écrit trop d'articles sur Ebola. Et je dis, nous devrions, nous, Congolais, prendre cette situation d'Ebola à main, parce que Ebola a sa terre de prédilection, le Congo. Et si nous pouvons travailler encore un peu plus, avoir beaucoup de laboratoires sur ça et anticiper même les études au lieu de courir derrière Ebola, parce qu'il vit avec nous, il vit dans nos forêts, il vit peut-être dans nos rivières.
Merci Alain Botoko, Élisée Odia. Un mot sur ce prix, Christophe Mérieux.
C'est une preuve qu'il y a des intelligences ici en République démocratique du Congo, mais qui souffrent peut-être de cette manque de reconnaissance ou de cette méconnaissance. C'est une preuve qu'on est RDC en forme et qu'il y a des gens compétents, et ce dans tous les domaines. Et ce prix, il le mérite largement. Je crois que, comme l'a dit le confrère, ça va permettre à ce qu'on puisse développer des recherches ici en République démocratique du Congo. Le combat avec nous, on a vu.
Le gouvernement devrait accompagner ce genre de personnes.
Mais à un certain moment, on a vu ce gouvernement dire qu'on va axer notre politique sur la recherche. Mais encore une fois, on se limite au niveau des annonces, mais rien n'est fait concrètement. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le budget alloué à la recherche ici au pays? Mais là, on a une preuve qu'il y a on reconnaît l'intelligence qui existe ici en République démocratique du Congo. On essaie de mettre en exergue, et je crois que notre gouvernement, la société congolaise, doit essayer d'embrayer sur ce chemin-là.
Merci Élisée Odia. Romain Kambala, directeur de la radio-télévision Kassai Horizon à Tshikapa, au Kassai Occidental. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Oui, l'actualité à Tshikapa, c'est juste l'engouement autour du dépôt des candidatures au début de cette semaine. Quoique le chiffre avancé jusque là semble être minime, mais c'est ça ce qui a fait la une, qui a pu appeler tous les élus qui sont dans la capitale, qui siègent à l'hémicycle et qui se sont précipités pour la plupart à venir déposer encore dans les provinciales. C'est du moins ça ce qui a marqué l'actualité au courant de semaine ici à Tshikapa.
Merci Romain Kambala, la presse congolaise encore une fois en deuil. Notre confrère Georges Bakabaka de la RTGA nous a quitté le week-end passé à Kinshasa. Vous l'avez connu personnellement, Alain Botoko?
Oui, j'ai eu quelques contacts avec lui, mais Georges laisse derrière lui une femme, une veuve et une petite fille. La question que je me pose aujourd'hui, je me dis, mais qui va prendre en charge cette veuve et cette petite fille, connaissant que nos organes de presse ici ne sont pas souvent affiliés à l'INSS, que deviendra cette femme et cette fille? Donc nous devons vraiment travailler, et c'est ça ce que le gouvernement devait faire, pouvoir donner du travail, un travail décent à tout le monde pour pouvoir prévenir les jours mauvais comme traverse cette famille de notre confrère Georges.
Élisée.
Voilà, je présente d'abord mes condoléances au nom, bien entendu en mon nom, mais au nom de mon organe que je représente ici, à toute la famille de la RTGA, mais également à la famille biologique de Georges Bakabaka. C'est quelqu'un que j'ai eu à pas beaucoup fréquenté, mais j'ai eu le bonheur ou la grâce de faire une ou deux interviews avec lui, et j'ai découvert quelqu'un qui était simple mais intelligent, outillé et accessible, pas grossier, pas arrogant, et je crois que c'est une grosse perte pour la presse. Et on ne peut que penser, comme l'a dit le confrère, à la veuve, aux enfants. Et je crois que c'est ici qu'on doit démontrer la solidarité même de la presse congolaise par rapport à ce malheur qui, une fois de plus, vient de nous atteindre.
Merci. Nous présentons nos condoléances à toute la presse congolaise. C'est un confrère qui nous a quittés, à la famille biologique de notre confrère Georges Bakabaka. Premier thème de ce soir, la CENI a prolongé les opérations des dépôts des candidatures à la députation provinciale jusqu'au 30 mai prochain. Décision prise au cours d'une séance plénière extraordinaire lundi dernier à Kinshasa. La CENI a observé que sur 8000 formulaires récupérés, 2000 seulement candidatures ont été déposées sur toute l'étendue de la RDC. On écoute Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, au micro de Michel Kissinda.
Après l'analyse approfondie du rapport de monitoring, les statistiques indiquent que sur les 171 bureaux de réception et traitement des candidatures, les quelques bureaux qui n'avaient pas encore enregistré un seul dossier venaient de les voir cet après-midi. Mais compte tenu des difficultés réelles, des multiples demandes et sollicitations tant des partis politiques que des regroupements politiques, et compte tenu des rapports réels reçus, principalement les cas de traçage des paiements effectués en dehors des circonscriptions des candidats, elle vient de prendre la décision portant prolongation du délai de l'inscription des candidats pour l'élection des députés provinciaux.
Cette prolongation n'est pas du goût de l'opposition. Des peurs estiment-elles qu'il n'y ait glissement du calendrier électoral. José Makina, leader du parti ATD de l'opposition, le dit au micro de Jeff Ngoy.
L'opposition, elle est prête pour aller aux élections provinciales. Nous avons terminé toutes les candidatures à travers la République. Nous ne voulons pas d'une prolongation quelconque, même pas de 5 minutes. Donc, si la CENI veut être un agent causal de la prolongation ou du glissement, nous le reconnaîtrons aujourd'hui. Parce que accepter que le dépôt de candidature puisse se prolonger à la date d'aujourd'hui, c'est accepter aussi le glissement.
De son côté, la majorité estime que la CENI est une institution indépendante qui a la latitude de prolonger le délai si elle le juge opportun. Ramazani Chadari du PPRD l'explique au micro encore une fois de Jeff Ngoy.
Nous nous sommes mis d'accord, et la majorité et l'opposition, aucun groupe n'est demandeur de report ou de prolongation de la date de délai de dépôt des candidatures. Mais les deux groupes ont également estimé que comme c'est la CENI qui est pouvoir organisateur et que tout cela relève de ses compétences, nous laissons cette possibilité à la CENI de pouvoir prolonger de 4 à 5 jours, tout dépendra de la CENI.
La CENI informe en outre que les débuts des dépôts des candidatures pour les élections municipales et locales est reporté en attendant l'adoption et la promulgation de la loi portant répartition de sièges. Alain Botoko, je rappelle que vous êtes journaliste, photoreporter indépendant. Quelle lecture ou quelle analyse vous faites de cette prolongation jusqu'au 30 mai prochain de l'opération des dépôts des candidatures à l'élection des députés provinciaux? Il faut dire que c'est le deuxième report.
Les effets me donnent raison, Kelly. Il y a une semaine ici, je disais qu'il y a une obligation que le Congolais aille dans un dialogue pour pouvoir ne pas tomber dans le mur, en fait, ne pas cogner le mur qui est devant nous. Le 22 de ce mois ici, Kalamba était en train d'insister qu'il n'y aurait pas une minute des reports de dépôt de ces candidatures. Mais quelques deux jours après, il revient, il dit non, on peut reporter ça pour 5 jours. Et à l'occasion, il dit, il repousse le municipal, le local et urbain. Donc ça signifie que la CENI est en train de nous entraîner petit à petit à un glissement intelligent, mais ce que je suis en train de craindre, et ça, la CENI devait prendre ça en compte, c'est que la population congolaise d'après le 19, le 20, le 21, le 22 janvier le 2015 n'est plus la même. Donc les gens sont tellement éveillés et tout le monde regarde la politique avec un œil très vigilant. Il n'y a plus rien à tromper. Donc la CENI doit s'assumer et dire qu'il n'a pas tout le moyen à sa disposition pour pouvoir faire les élections provinciales à la date donnée. Et elle doit dire aussi qu'il faut faire les élections que nous pouvons faire avec l'aide de la communauté internationale. Parce que les autres élections, le représentant de la MONUSCO a dit qu'ils ne vont pas prendre part à ça. Donc, or, c'est la MONUSCO qui a les avions, qui a les hélicoptères, qui a le moyen dans le dans de communication dans l'eau et qu'il y ait de véhicules pour pouvoir atteindre le lieu que nous-mêmes ne pouvons pas atteindre, que notre gouvernement ne peut pas atteindre. Donc, je demande à la CENI d'être plus sincère et à ceux qui dirigent actuellement le pays de pouvoir comprendre que la situation est complexe et le dialogue doit avoir lieu et doit avoir lieu maintenant.
Merci Alain Botoko Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet ici à Kinshasa. Le calendrier que la CENI avait proposé était décrié déjà par l'opposition. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que c'est parce qu'elle ont été qu'elle se retrouve aujourd'hui bloquée face à la suite du calendrier ou des élections à venir?
Bloquée, on ne peut pas le dire tout de suite. On doit se référer au calendrier. Qu'est-ce qu'il est dit dans le calendrier qu'on convoque le corps électoral pour les élections provinciales du 15 avril au 9 juin 2013? Et dans cette convocation, vous trouvez l'ouverture de bureaux, vous trouvez les dépôts de candidature, vous trouvez les traitements de candidature. Et nous sommes le 30, là on est au deuxième report, donc la CENI, par rapport à ces opérations concernant les élections provinciales, n'est pas encore hors délai.
Mais la préoccupation... Par rapport au dépôt des candidatures.
Non, je dis la convocation. Dans la convocation du corps électoral, vous avez toutes ces opérations des élections provinciales. Même pas par rapport, vous avez dans la convocation...
Mais est-ce que cela ne risque pas d'avoir un impact sur,
non,
un impact
que c'était
sur
prévu...
le reste des opérations?
Non, c'était justement prévu, justement, dans la convocation du corps électoral par rapport aux élections provinciales, la CENI avait prévu du 15 avril au 9 juin. Et je l'ai dit, dans la convocation du corps électoral, il y a plusieurs autres opérations qui étaient prévues, notamment l'ouverture, dépôt de candidature, traitement et tout, devrait se dérouler dans ce délai-là.
Est-ce que c'est faisable?
Mais puisqu'on est au deuxième report, ça se termine le 30, vous imaginez que le 9 juin, la CENI ne sera pas hors délai par rapport à ça. Donc je me dis que tiens, il mérite un peu un bénéfice de doute par rapport à ça. Mais il faudra revenir, on risque d'avoir un problème si la loi sur la répartition de sièges pour les communales n'est pas adoptée ou n'est pas arrivée à être publiée. C'est là où on a le problème. C'était prévu que le gouvernement se réunisse aujourd'hui pour essayer, parce que la CENI avait déjà travaillé sur le projet de loi relatif. Il fallait que ça arrive au Conseil de ministres. C'était prévu qu'il y ait Conseil de ministres, mais aux dernières nouvelles, je crois que ça n'a pas eu lieu, pour qu'enfin que le gouvernement renvoie le projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas eu lieu. Et c'est là où on risque d'avoir des problèmes et c'est là où peut-être qu'on risquerait de parler du glissement si on n'arrive pas à doter la CENI justement de ce document qui est important. Mais à cette note, il ne faut pas aussi se leurrer. Il ne faut pas que la CENI puisse se targuer et dire oui, je suis dans le délai. Mais il y a tellement de problèmes. Nous avons eu assisté à la réunion que la CENI a tenue avec les différentes composantes des partis politiques ici. Il y a des problèmes graves, hormis le retard dans les dépôts. Il y a des problèmes. Vous avez certainement après le problème entre les deux MLC, l'Ouaka, FBAZAIBA, ça pose des problèmes. Il y a des problèmes au niveau de la DGRAL par rapport à la perception même de montant que les candidats doivent... Il y a énormément de problèmes et je crois que la CENI est appelée à faire beaucoup d'efforts et à nous dire réellement ce qui se passe et quitte à nous démontrer peut-être qu'il est dans la... Mais pour l'instant, on peut dire que par rapport à son calendrier...
La CENI est dans le délai.
Il est encore dans le bon.
Merci Élisée Odia. Romain Kambala, directeur de la radio-télévision Kassai Horizon à Tshitkapa au Kassai Occidental. Comment cette nouvelle prolongation a été accueilli à Tshitkapa principalement?
Oui, effectivement, la nouvelle a été accueillie à Tshitkapa d'une manière positive par les uns et d'une manière négative par les autres selon qu'on se retrouve dans l'un ou dans l'autre camp. Mais ce qu'il faut reconnaître est que les gens ont eu quand même à décrier ce deuxième prolongement ou cette deuxième prolongation parce qu'il y en a eu déjà une première et ça c'est une deuxième. Et là, on s'est dit peut-être que la CENI risque d'être un arbre qui cache la forêt. Parce que on ne comprend pas, ce sont eux qui ont élaboré le calendrier que nous suivons. Et avec ces calendriers, on a été à la première prolongation, le motif est le même qu'ils avancent. Écoutez, il n'y a pas eu d'engouement dans le bureau de vote. Mais qui vous dit qu'à ces 1e prolongation ou à cette 1e prolongation, il y aura toujours de l'engouement? Le problème, vous avez évoqué vous-même, attendu à 8000, nous sommes à 2000. Qui vous dit que dans les 5 jours, nous atteindrons la moitié ou nous dépasserons le 50%? point d'interrogation. Et en plus de ça, la CENI doit apprendre à dire la vérité à la population congolaise. Ça veut dire qu'il y a des problèmes internes qui ne lui permettent pas de tenir ses élections dans le temps. Ce sont des problèmes logistiques, comme ils en évoquent. Il y a eu des problèmes d'argent, je ne sais pas, moitié d'argent ou moins de la moitié pour organiser. En plus de ça, la logistique elle-même qui doit être tenue par l'ONU, qui par moment se rétracte parce qu'il y a des positions qu'elle trouve qu'elles ne sont pas assez satisfaisantes. Donc, c'est pour dire, la CENI doit se ressaisir.
Est-ce que cela veut dire pour vous que la CENI devrait revoir le calendrier électoral qu'elle a proposé?
Non, non, pas revoir le calendrier électoral. Pourquoi revoir? Parce qu'on lui avait demandé de donner un calendrier qui parle, c'est-à-dire qui lui permet de respecter les étapes et qui lui permet de respecter le temps. Maintenant que lui-même a élaboré le calendrier, les autres ont décrié, ont dit, écoutons, mettons-nous ensemble, revoyons ces calendriers, voyons dans quelle mesure on peut l'améliorer pour que les uns et les autres se retrouvent. Là, les autres ont dit, écoutez, le calendrier était parfait, le calendrier était bon, était sain, et tout ce qu'on a raconté. Mais maintenant, on arrive à ce jour. Les difficultés que les autres voulaient qu'on se mette ensemble pour pouvoir le détailler davantage et arrêter une mouture qui soit la bonne une fois pour toutes, aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver. On commence à dire, écoutez, il n'y a pas d'engouement dans le bureau de vote, on n'a pas assez de candidats. Est-ce que vous pensez que n'avoir pas assez de candidats, c'est la raison valable? Parce que pour une circonscription qui a besoin peut-être de 4 ou 5 candidats et que vous en avez plus de 10, plus de 20, qui vous dit qu'il n'y a pas eu engouement? Là, la raison ne tient pas debout. Mais effectivement, il y a des circonscriptions où il n'y a pas eu de gens vraiment, c'est normal. Mais si jamais on peut les attendre et qu'ils ne viendraient pas, allons-nous arriver jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin de juin, à attendre toujours que les gens viennent dans le bureau de vote? Voilà la question. C'est pourquoi j'ai dit, la CENI risque de paraître comme un arbre qui cache la forêt. Le vrai problème n'est pas là, et la CENI cherche à dire au peuple congolais où se trouvent les problèmes dans cette prolongation, où ils veulent faire le glissement, mais un glissement malin, voilà.
Alain Botoko, vous avez suivi Élisée Oudéa qui estime que par rapport au calendrier proposé par la CENI, elle est encore dans le temps par rapport à l'opération des dépôts des candidatures pour les provinciales, par rapport à l'élection provinciale, je veux dire.
Mais je prends le rapporteur de la CENI lui-même, Kalamba, qui a dit qu'il va mettre à disposition de la presse un calendrier accommodé, réfléchi. Ça veut dire qu'il a des problèmes, la CENI a des problèmes. Mais je vais aller au-delà de ce que nous sommes en train de discuter. Hein. La problématique, c'est au niveau de la confiance qu'ont le Congolais à cette CENI, à ce pouvoir organisateur des élections. Moi, je suis reporter, j'ai sillonné quelques centres où on a affiché les listes qu'il fallait nettoyer, qu'il fallait cocher, signaler. Mais les gens dans les quartiers à Kinshasa où je puis circuler, il y a eu moins d'engouement, en fait, moins de 30%, de 20% d'hommes et de femmes qui sont partis pour signaler leur présence. C'est-à-dire qu'il y a cette classique, le pacte social, ce qui unit les dirigeants et ceux qui sont dirigés n'existe plus assez. Les gens n'ont plus confiance aux élections. Alors là, il faut recréer cette confiance parce que sinon, ça ne vaut plus la peine parce que la démocratie, c'est la participation citoyenne.
Et qu'est-ce que la CENI devrait faire pour recréer cette confiance?
Mais la chose est simple. J'ai suivi le Pungwe, ou en fait le vice-président qui représente aujourd'hui Maluma qui est malade, souhaitons qu'il soit guéri un peu plus tôt parce qu'en fait c'est le président choisi qui devait normalement l'intérimaire ne peut pas tenir une structure comme la CENI à un long temps, sinon il va craquer, ça va. Et il a dit que nous attendons s'il y a un mot de politique, nous pourrions probablement recadrer ce qu'il faut recadrer. Donc la CENI doit être claire avec les hommes politiques et la société civile pour pouvoir chercher un consensus autour des élections qui n'existent plus.
C'est pourquoi vous insistez sur le dialogue, Alain Botoko.
Justement, il n'y a pas des ici. Si on ne va pas au dialogue, ça va craquer avec tout.
Mais c'est dans le dialogue, c'est lorsqu'on va organiser ce dialogue que vous pensez qu'on trouvera des solutions.
Vous savez, dans le dialogue, quand vous lisez la résolution de l'ONU, quand vous lisez les accords alors d'Addis Abeba, vous trouverez qu'il y a des pistes de solutions dans cela. Vous voyez, vous regardez ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement qui est en train de gouverner le pays, est-ce qu'il a la même issue toutes les années du pays? Ça, c'est le problème le plus complexe. Si on ne fait pas ça, mais nous allons laisser ce pays sera dans le chaos dans le jour.
Élisée Odia, qu'est-ce que vous pensez du dialogue proposé par Alain Botoko pour trouver des solutions, entre autres, sur l'organisation des élections?
Quand je suis le politicien, on vous dit, mais tiens, le dialogue est permanent. Le problème dans ce dialogue, c'est au niveau du format. On le veut comment? De la manière de la concertation, comment on s'est réunis, la manière, comment ça se passe, on est à ce niveau-là. Mais des politiques aussi bien de la majorité que de l'opposition vous diront que oui, on peut se parler, mais personne ne remet en cause le dialogue. Mais on doit le faire comment? C'est là où se pose le problème. Je revenais tout à l'heure, je dis que le lundi passé, c'était en début de semaine, nous avons vu que la CENI a organisé une sorte de dialogue, si on peut appeler ça comme ça, entre une réunion, mais on a vu les uns et les autres se parler. Même si à un moment ça a un peu débordé, mais ça a permis à ce que la majorité ou l'opposition puisse parler de ces problèmes et que la majorité puisse écouter. Mais enfin, vous aviez entendu au sortir de cette réunion les uns des autres dire que nous sommes tombés d'accord par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Donc le dialogue en soi, personne ne peut refuser un dialogue, mais comment on veut le faire ce dialogue? C'est prendre en otage tout un pays pendant 10 jours, 20 jours, 50 jours, c'est quoi? Permettre à ce que d'autres puissent intégrer un autre gouvernement qu'on appellera cette fois-ci le gouvernement de dialogue. Il faudrait qu'on définisse peut-être le gouvernement, mais sur le fond, personne ne peut être contre le dialogue. Et je suis tout à fait d'accord, peut-être en parlant des élections provinciales pour dénoncer, dire aux gens. Je crois que la presse a également une responsabilité parce qu'on ne peut pas surcharger la CENI en disant « oui, elle ne fait rien pour susciter l'engouement ». Maintenant, l'élection ou les élections, c'est un problème de société. Chacun doit jouer sa part. La maman maraîchère doit savoir que je dois voter pour que je ne puisse pas subir quelqu'un que je ne veux pas à la tête de ma circonscription, à la tête de ma commune, à la tête de ma province, à la tête de mon pays. Et ça, on doit le faire comprendre aux gens. Et pour arriver à le faire comprendre aux gens, chacun de nous, politiques, acteurs de la société civile, médias, nous avons un rôle à jouer. On ne peut pas déclencher un engouement par une baguette magique, demander à la CENI d'aller... Non, il faut expliquer à ces gens-là qu'il faut voter, c'est un droit, c'est un devoir pour participer à la gestion de votre pays.
Allez, à parler de manque de confiance, cette confiance qui n'existe plus entre la base et les institutions.
Mais justement, on est d'accord. Voilà pourquoi
est-ce
je dis.
Le fait de leur dire allez-y, vous devez choisir la personne que vous voulez.
Mais la meilleure circonscription suffit. C'est révolu, c'était pour vous n'allez pas prendre des armes non plus. L'urne, le bulletin que vous allez mettre dans l'urne est la meilleure des façons. Il faudrait dire à ce genre-là, vous êtes mécontent de la gestion du pays, vous n'avez plus confiance à ces gens. Mais vous n'avez que ça, c'est ce bulletin que vous allez mettre dans l'urne. Mais pour arriver à mettre ce bulletin-là, il faut vous intéresser, connaître peut-être le projet de société de tel. Et c'est par rapport à ça que vous allez arriver à sanctionner, à vous dire que non, écoutez, je suis pas content de ce que vous avez fait pendant 5, 10 ou 15 ans. Je veux donner ma confiance à une autre personne et je vais veiller à ça.
Romain Kambala, qu'est-ce que vous pensez du dialogue?
Oui, le dialogue, c'est très important. Et comme on le dit en jargon communicationnel, le dialogue doit se faire sous l'arbre. Mais faudra-t-il savoir que pour le cas sous examen dans notre pays, et surtout celui que nous sommes en train de débattre ce soir, ouais, effectivement, il faut un dialogue. Il faut que toutes les parties prenantes qui sont concernées dans ce dossier, dans ces élections, se mettent autour d'une table pour savoir comment est-ce que nous pouvons faire atterrir en douceur ce processus que nous avons entamé. Il faut qu'on connaisse le point de vue de l'un et de l'autre. Qu'on sache aussi quel sera l'ordre du jour du dialogue en question que nous voulons tenir. Tenir du dialogue, c'est bon, mais on y va avec quel agenda? Voilà là où se trouve le problème. Si quelqu'un connaît, a priori, ce dont il sera question dans les échanges, quelle sera la durée des échanges et quel sera l'impact? C'est comme l'a dit la consoeur, il ne faut pas qu'on prenne le pays en otage pendant autant de jours. Ça devient une histoire comme ça a été la conférence nationale souveraine dans le temps. Ça a pris le temps, c'est ça a pris effectivement. Mais il faut un temps pour limiter.
pour que le pays ne soit pas bloqué par le dialogue. Et qu'en allant à ce dialogue, qu'on sache au juste qu'est-ce qu'on va pouvoir se parler. On va pouvoir se dire quoi. Parce que de l'un ou de l'autre côté, j'ai suivi, je crois pas plus tard qu'aujourd'hui, dans la presse, on a présenté l'aide de l'opposition qui est dirigée par le président du Sénat, Léon Kengo, qui dit n'y a pas de dialogue. Mais de l'autre côté, quand vous allez à l'opposition qui est en dehors des institutions, on vous dit non, nous ne sommes pour le dialogue. Ok, toutes ces parties avec le gouvernance actuel doivent se mettre ensemble, la société civile aidant, les autres forces vives, et savoir au juste qu'est-ce qu'on va se dire, quel sera l'ordre du jour du débat, quel sera l'ordre du jour du dialogue. Mais si on y va, vaille que vaille, ne sachant pas de quoi sera question au cours de ce dialogue, je pense que ça ne pourra qu'accoucher que de souris et il n'y aura pas de bonne solution. Et là, le risque étant très permanent, il y a vraiment risque, bien comme je le dis, de pouvoir atteindre un glissement parce que le consensus n'a pas été tiré à bon escient.
Sur la question des élections, il existe un cadre permanent qui réunit la CENI et les partis politiques pour évoquer les problèmes qui touchent à l'organisation des élections. Est-ce qu'il faut encore organiser un dialogue et sous quel format, comme l'a dit Élisée?
Bon, le problème, ce n'est pas tellement le format. Moi, je ne m'intéresse pas au format, quel que soit le format, mais c'est le contenu qui est essentiel. Le format peut être beau, en or, fin, valide, mais quand son contenu est creux, à quoi va servir le format? Moi, je pense pas, c'est vrai, c'est que la Constitution a avancé comme l'idée, c'est bien, mais pour moi, je ne partage pas l'idée du format. C'est pas très intéressant de s'intéresser au format, mais intéressons-nous au contenu pour savoir qu'est-ce qui sera dit et qu'est-ce que nous allons traiter dans ce dialogue, dans ce débat, quand on va se retrouver.
Merci Romain Kambala. Deuxième et dernier terme de ce soir, les évêques du Maniema, Nord et Sud Kivu dénoncent le silence des autorités de la RDC et de la communauté internationale face à la montée de l'insécurité dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Ces prélats catholiques ont exprimé leur indignation dans une déclaration rendue publique le week-end dernier au terme de leur conclave d'une semaine à Butembo. Dans leur déclaration, ces évêques qualifient les massacres des Beni des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Denise Lukesso nous en dit plus.
Outre la situation socio-pastorale, les prélats catholiques ont aussi tablé sur la sécurité en se focalisant sur les massacres des civils à Béniville et territoire. Ils expriment leur indignation par rapport au silence des autorités et de la communauté internationale face à ce qu'ils qualifient des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Les évêques du Kivu, qui dénoncent l'affairisme politico-militaire, regrettent par ailleurs que la sécurité, la paix et l'intégrité du territoire congolais ne semblent pas être prioritaires dans la stratégie des autorités habilitées. Le chef de l'État doit assumer ses responsabilités en cette période électorale, recommande-t-il. Et à la MONUSCO, d'améliorer les rendements de sa mission de stabilisation et de protection des civils. D'autres recommandations en rapport avec la situation ont été formulées à l'endroit des différentes autorités du pays, aux députés ainsi qu'à la communauté internationale par les évêques des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Goma, Denise Lukesso, Radio Papi.
Merci Denise Lukesso. Élisée Odia, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui est aimée ici à Kinshasa. Quelle est votre lecture de cette déclaration des évêques qui dénonce le silence des autorités congolaises et de la communauté internationale face à la montée de l'insécurité à Beni?
On ne peut que saluer ce geste. On sait que l'Église catholique, des évêques ont toujours été, se sont toujours impliqués dans les différentes situations qui sévissent au niveau du pays. Ils ont raison de dénoncer ce silence. On se demande, mais tiens, est-ce que nos autorités, ils voient ou ils voient pas? Ils entendent ou ils entendent pas? C'est bien beau de dire, oui, le président est interpellé. Le premier ministre qui s'occupe plus de la stabilité du cadre macroéconomique, il devrait s'occuper également de stabiliser le taux de massacre au lieu de viser le taux de croissance à deux chiffres. Les taux de massacre est passé à trois chiffres là-bas. On tue 300, vous ne dites rien. Je crois que c'est quand même ahurissant pour le premier ministre. Je crois qu'il est temps. Je ne veux pas m'en prendre, peut-être pas au président, mais je crois que c'est lui qui mène la politique du gouvernement, c'est le Premier ministre, qui cesse d'être un peu le ministre de l'économie et de finances. On a besoin de lui pour des questions beaucoup plus sérieuses. Il y a des gens qui meurent. Je suis peut-être étonnée, voire révoltée, quand je vois qu'il y a des gens qui meurent et que le Premier ministre n'est pas encore arrivé à Beni. c'est révoltant. Ils préfèrent qu'on déroule un tapis rouge à Abidjan. C'est révoltant.
Il y a quand même le ministre.
J'ai vu le Premier ministre tweeter quand il y a eu le massacre de Charlie Hebdo. Mais pas tweeter quand il y a eu 300 morts chez lui. Pourquoi il ne fait pas un tour là-bas? On est des Africains. Quand il y a un mort chez nous en Afrique, on ne voyage pas, on ne bouge pas, on pleure avec ceux qui pleurent. On remet un peu plus tard. Les gens ont besoin, ça ne dit pas. Les gens sont conscients qu'on ne peut pas mettre fin à cette violence par simple baguette magique. Ils sont conscients, mais ils ont besoin de ressentir cette sollicitude-là. Ils ont besoin de ressentir que leurs autorités sont là avec eux. Et en Afrique, la meilleure façon de le faire, c'est être là présent. Pour une, deux heures, deux jours, trois jours. Mais ça n'a pas été là. Juste des simples gestes comme ça. Et je n'ai pas vu le Premier ministre faire ça. C'est révoltant.
Il y a des membres du gouvernement qui sont quand même descendus.
Je parle de ils ne s'empêchent pas de faire des tours aller-retour à Maniema. Je vous dis, je donne un exemple. Il y a des provinces où le Premier ministre n'est jamais arrivé. Je donne un exemple. Il est peut-être arrivé dans le Kasaï occidental parce qu'il y avait conférence de gouverneurs. Et je ne pense pas qu'il soit arrivé déjà dans les Kasaï orientales. L'Équateur, n'en parlons pas. La province orientale, non. Mais vous dirigez quelle partie du pays? Vous dirigez quoi? Les chiffres? Oui, nous atteindrons un chiffre. Non, je crois que c'est révoltant. Vous travaillez pour que ces gens-là mangent, mais quand ces gens-là meurent, ça doit vous interpeller. On a besoin. On est content de vous, Premier ministre. Vous êtes arrivé à stabiliser le cadre macroéconomique, mais il est temps que vous deveniez un peu politique et vous prendre à bras le corps la question sécuritaire au pays.
Alain Botoko, journaliste, photoreporter indépendant. Les évêques ont-ils raison de tirer la sonnette d'alarme face à cette situation?
Ils ont raison. Un de nos confrères titrait il y a quelques jours passés que Matata doit être limogé ou être traduit en justice. Et moi, je complète pour dire que ce n'est pas seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de sécurité, de paix et de l'intégrité de notre territoire. Pourquoi? Parce que le Premier ministre donne l'impression qu'il ne gère que l'argent. Il n'a des comptes à rendre qu'au président et à la communauté internationale monétaire. C'est pour cette raison qu'il fait troïka chaque après 3, 4, 5 jours, et puis bon, à chaque discours, lui nous parle que de ce que le président lui dit, ou de ce que le président pense. Non, c'est pas comme ça, en fait. Le pays, il doit gérer le pays en fonction de lois qui régissent notre pays. Notre constitution dit ceci, que le premier ministre échange avec le président et il prend les idées du président, il vient communiquer, il vient échanger, appliquer dans la population. La concert, elle a parlé. Il n'a jamais été à Béni. Et il y a 113 villages qui sont brûlés au nord Katanga. Il n'a jamais été là-bas. Il y a plus de 200 personnes qui ont été tuées là-bas. C'est le moindre de son souci. Regarde ce que les évêques, dans leur ensemble de cette diocèse de Bukavu, étaient en train de dire. Ils disent, en fait, pour les autorités, ce qui leur concerne, c'est leur bureau et non le reste de la population. Ils ont pleinement raison. Pourquoi? Parce que quand on gère une nation, on voit d'abord les hommes. Parce que l'économie et tout ce que les infrastructures, c'est, on fait pour que l'homme soit à l'aise, pour que l'homme vive et qu'il ait une vie durable.
Merci Alain Botoko. Voilà. Merci, je vous redonne la parole tout à l'heure pour conclure. Romain Kambala, directeur de la radio-télévision Kasaï Horizon à Tshikapa, au Kasaï Occidental. Plusieurs ministres sont allés à Beni pour essayer de trouver une solution, mais apparemment, la situation ne change pas. Est-ce qu'il faut dire que le gouvernement a failli à sa mission régalienne de protéger la population?
Oui, ouais, je répondrai par oui, très positivement. Le gouvernement a échoué. Il ne faut pas avoir peur de le dire clairement que le gouvernement a échoué dans sa mission régalienne, comme vous dites, de protéger la population. La population n'est pas protégée. Et si aujourd'hui, les évêques catholiques de cette partie de la République sont arrivés à faire entendre leur voix, c'est parce que d'abord, ceux qui meurent sont les citoyens de ce pays, sont les chrétiens de leurs églises, sont les fils de ces contrées. Et pourquoi une mort à répétition? C'est la question qu'on se pose.
Le ministre de l'Intérieur, dernièrement, je crois, il a fait un tour là-bas. Les autres dignitaires, ils sont passés. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas ce voyage, ce n'est pas cette visite. Mais quelles sont les dispositions et les mesures concrètes qui ont été prises? Parce qu'en revenant de la visite là-bas, par exemple, comme le ministre de l'Intérieur s'y est rendu, en revenant, il a fait rapport à son gouvernement. Et le gouvernement, qu'a-t-il arrêté comme disposition pour couper court à cette tuerie en répétition? Jusqu'à ce jour, il n'y a pas de solution. Et on apprend toujours que les gens sont en train de mourir. Donc, c'est un gouvernement a bien parlé qui doit démissionner parce qu'il n'arrive pas à protéger la population. Le confrère le disait, le premier ministre n'est choisi que là où c'est beau, là où ça l'attire. Et bon, je dirais, là où on pleure, ça ne l'intéresse pas, il ne s'intéresse que là où on mange, là où c'est bien, pour présenter des rapports d'argent. Le rapport financier, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, voilà. Est-ce que vous pensez que le petit peuple qui est en train de mourir du jour au lendemain, lui aussi maîtrise les données par rapport au Fonds monétaire international, lui maîtrise les données par rapport à la Banque mondiale, et même dans le fonds pour lequel on présente du rapport à la Banque mondiale, et pour le bien-être de la population.
Alors vous allez conclure, Romain Kambala, les évêques parlent des complicités dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, brièvement?
Oui, effectivement, c'est leur point de vue. Si elles jugent qu'il y a une complicité, pourquoi les évêques arrivent à taxer cela de complice? Tu ne dis mot qu'on sent. On est en train de tuer les gens, mais il n'y a aucune réaction de la part du gouvernement. Pourquoi ne pas les taxer de complice? Parce que s'ils n'étaient pas complices, ça leur ferait du mal. On a vu ailleurs dans le monde, comme l'a évoqué le confrère, d'une tuerie, d'une, deux personnes, le président de la République voudrait sortir ou se retrouver en dehors du pays. Il dit, je régagne parce que je vois la case brise. Mais nous, nous sommes à l'intérieur du pays. Le premier ministre est là. Le président de la République est là. Et les gens meurent. Le premier ministre n'a pas le temps de réunir son gouvernement pour voir avec célérité qu'est-ce que nous devons faire pour cette partie de la République où les gens meurent. Et qui sème cette erreur, qui sème cette mort? Bon, les évêques ont raison.
Merci.
Il y a complicité.
Merci Romain Kambala, Élisée Odia. Toujours dans cette même déclaration, les évêques parlent d'affairisme politico-militaire.
Mais je crois que ça a été démontré par plusieurs rapports. Ils n'ont pas totalement. On n'a pas inventé. Ça a été prouvé par différents rapports, même au sein du gouvernement, que l'affairisme y est pour beaucoup et peut-être soutenu par les grands militaires, par les politiques. Et ça, ils ont totalement raison de dénoncer. Et c'est au gouvernement de prendre des décisions qui s'imposent pour essayer de mettre
fin à ça. Selon vous, il n'y a pas de sanctions par rapport à ces personnes qui sont citées dans ce dossier?
La politique, justement, on devrait poser la question pourquoi on ne sanctionne pas alors qu'il y a différents rapports. On demande au gouvernement de sanctionner parce que plusieurs rapports prouvent qu'il y a comme ça des gens, des affairistes. Il y en a dans les FRDC, il y en a dans les politiques, mais tout ce qu'on attend, c'est une sanction. Dire non, on ne veut pas, on veut plus qu'il y ait des morts parce qu'il y a des gens qui veulent se faire de l'argent.
Merci, Élisée Odia. Alain Boutoukou, en guise de conclusion.
Les églises réveillées doivent se réveiller comme les catholiques, les protestants doivent aussi se réveiller, les kimbanguistes, pour dire non à cette tuerie, non à la mauvaise gouvernance, et qu'il y ait quelque chose de bon pour le pays, parce que le pays est grand, nous ne méritons pas ce que nous sommes en train de connaître actuellement.
Merci Alain Botoko, c'est la fin de cette émission. Merci chers confrères d'avoir accepté notre invitation. Merci Alain Hung qui était à la réalisation, la prise de son était assurée par Hippolyte Kapanga, voilà. Au micro, Kéline Coutier, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon type de programme sur la fréquence de la paix et bon week-end.